Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 12h pile à Kinshasa. Voici votre session d'actualité. Au sommaire, les sites universitaires de Kinshasa dans les quartiers Plateau 1, dans la commune de Mongafula, menacés de disparition par une centaine de têtes d'érosion qui y évoluent activement. Déjà une centaine de ménages ont perdu leurs habitations. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, offre 658 logements aux ménages qui ont émis la volonté de quitter les sites de déplacés à Nitouri. 6 sites ciblés pour l'instant se trouvent tous à Bounia et sa périphérie. L'invité de ce journal est Madame Eliane Munkeni, deuxième vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo et seule femme à occuper un poste dans le présidium du patronat congolais. Elle célèbre la venue d'une femme dans l'une des plus hautes institutions politiques du pays tout en espérant qu'elle apporte des solutions aux préoccupations majeures des opérateurs économiques. Bonjour. Une centaine de ménages privés de leurs habitations sur les sites de l'Université de Kinshasa. Des têtes d'érosion menacent tant les sites académiques que les résidences des professeurs ainsi que les quartiers environnants. Depuis les 5 dernières années, on compte plus d'une centaine de maisons englouties dans ces érosions. Les habitants de ces quartiers plaident pour une intervention des gouvernements afin de sauver l'Université de Kinshasa en danger. Reportage Michel Kifindangoy.
Les lotissements tout autour du site de l'Université de Kinshasa posent un sérieux problème de gestion des eaux de pluie, faute de canalisation, ce qui occasionne des têtes d'érosion un peu partout, emportant ainsi des centaines de maisons durant les 5 dernières années, témoigne professeur Rida, résident au plateau des professeurs.
Ces quartiers sont menacés sérieusement par plusieurs têtes d'érosion. En ce qui concerne précisément les quartiers Kojelo, Simbiti, plusieurs maisons ont été emportées. Aujourd'hui, nous comptons par centaines de ménages qui ont évacué. Il y a également les résidences officielles des professeurs qui sont en train de partir. Il y a là aussi quelques maisons qui sont déjà parties.
Qu'est-ce qui est à la base de ces érosions et comment y faire face ? Moïse Maloumalou, expert en environnement, répond.
On ne pouvait pas construire autour du site parce que c'est une zone en pente. Alors la solution est à la population riveraine de reboiser les lieux avec les plantes. L'autre solution, si aujourd'hui l'État construise des vrais canaux pour acheminer l'eau de la pluie, je pense que ça peut atténuer les effets des érosions sur ces sites.
Notez que les habitants de Kojelos et du plateau affirment espérer voir le gouvernement intervenir incessamment par la construction des canalisations afin de sauver leur quartier et le site universitaire.
Autre nouvelle, à Bounia, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, procède depuis mardi à la remise des 658 logements aux ménages qui ont émis la volonté de quitter les sites de déplacés. Pour l'instant, 6 sites ciblés sont concernés et se trouvent tous à Bounia et sa périphérie. D'après le chef du bureau du HCR à Bounia, cette mesure vise à rendre autonomes ces personnes qui reçoivent de moins en moins l'aide humanitaire. Ce projet est exécuté en collaboration avec les gouvernement provincial et des agences du système des Nations Unies. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Bembeyi, Yespe Bounia, Kigonze, Tere, Mbala, Telega sont les 6 sites où est exécuté ce programme. Faute d'obtenir intérêt spacieux pour la mise en œuvre de ce programme, ce projet pilote concerne dans un premier temps 658 ménages dont les bénéficiaires disposent de leurs propres parcelles, ce qui a permis aux ACER de leur construire des abris accompagnés des latrines où ils sont désormais autonomes. Le deuxième lot d'environ 840 autres logements dont les travaux de construction sont en cours seront remis aux bénéficiaires dans les prochaines semaines, a indiqué Kanté Manqué. Il affirme que sur les 6 sites concernés, 83% des volontaires acceptent d'être réintégrés localement plutôt que de retourner dans leur localité d'origine. Mais le besoin est énorme car selon le HCR, près de 3000 autres ménages qui auraient acheté des parcelles souhaitent quitter le site à cause des conditions de vie difficiles. Ce projet qui est exécuté en collaboration avec plusieurs autres organisations prendra fin en juin 2024. D'où l'appel du ACR au gouvernement et d'autres partenaires de conjuguer les efforts afin de répondre aux besoins de ces populations. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Pendant ces temps, au Nord Kivu, des cabines téléphoniques pour des appels gratuits sont placées dans les sites des déplacés. Le but est de permettre la réunification des familles dont les membres ont été séparés suite à la guerre. Il s'agit du projet PLF, protection des liens familiaux, mis en place par le Comité international de la Croix-Rouge en partenariat avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Dans les camps autour de la ville de Goma, comme Boulengo, Lushagala et Buhimba, les cabines publiques connaissent un grand engouement. Il en est de même au site des Roussayo, dans les territoires des Niragongo. Chris Mukand revient de la visite de quelques-uns de ces sites. Suivez.
Cet appel passé à partir d'une cabine téléphonique rassure son émetteur, qui vit dans le site de déplacé des Roussayo. Nzebanita Sebainzi, venu de Kichanga, habite ce camp depuis le 9 octobre 2023. Pour lui, cette initiative est une véritable aubaine.
Chaque fois que tu manques de l'argent pour t'acheter des crédits, tu as l'occasion de passer tes appels gratuitement grâce à la cabine de la Croix-Rouge. Tu as l'occasion d'avoir des nouvelles des autres membres de famille. J'ai eu l'occasion de communiquer avec des amis restés à Kichanga, Rubaya, Ngungu, voire Ufamano.
Muyibombe David est sécuriste de la Croix-Rouge, ici au camp de Boulengo, au quartier Lac Vert. Il travaille au sein du projet protection des liens familiaux.
Lorsque les gens ont fui, il y a eu séparation des membres des familles. Il y a des gens qui peuvent se retrouver au niveau du camp, sans qu'ils sachent là où se trouvent les leurs. Maintenant, la Croix-Rouge essaie à ce que les gens qui se sont séparés parviennent, encore une fois de plus, à se rétablir, être en famille. Ils doivent savoir la position de l'un et de l'autre. Et l'appel est gratuit, ce n'est pas payable.
Depuis le lancement de ce projet, le 20 février 2024, plus de 11 000 appels ont été passés à travers ces cabines téléphoniques. 43 enfants non accompagnés ont été retrouvés, dont 7 ont déjà été réunifiés avec leurs familles respectives. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Toujours en Nord Kivu, des combats ont opposé l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 dans la matinée, ce jeudi, sur deux fronts. C'est notamment autour des Kibirizi et la Ruindi, au nord du territoire de Rutshuru, ainsi qu'autour de la cité de Sake, en territoire de Masisi. Pour les sources locales, l'intensité de ces combats est en baisse depuis la fin de la matinée. Bernardin Nyangi.
La situation restait très volatile dans ces zones qui ont été le théâtre d'affrontements dans la matinée ce jeudi autour de l'axe Kibirizi-Ruindi ainsi que dans la zone de Sake. Pour la partie nord de Rutshuru, nos sources affirment que c'est depuis mercredi soir que des combats ont encore repris sur l'axe Kibirizi-Birundu-Kanyabayonga ainsi que sur l'axe Ruindi-Kanyabayonga. Certaines sources proches de l'armée indiquent que les rebelles du 1-23 tenteraient une percée vers Kanyabayonga. Ils ont cependant été repoussés par l'armée et ses alliés locaux. Toutefois, ces sources insistent sur le renforcement de l'armée en moyens nécessaires pour faire face aux menaces accrues des rebelles. Du côté de Sake, des tirs ont été entendus entre 8h et 11h locales ce jeudi. Les sources militaires font état d'au moins 4 bombes larguées par les rebelles qui sont tombées, une dans un camp militaire de Kasengesi, près de Mugunga, ouest de Goma. Deux autres dans les environs des bases militaires FARDC et SAMIRDC à Mubambiro, causant la mort d'une fillette et blessant 4 autres civils vivant dans les environs. La quatrième bombe est tombée au quartier Mayuta, sud de Sake, sans faire de victimes. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Et puis, clôture ce mercredi à Lubumbashi du symposium portant sur l'organisation par la 22e région militaire en collaboration avec l'Université de Lubumbashi. Placée sous les thèmes défense, sécurité et développement dans les Grands Katanga, cette rencontre scientifique a réuni les enseignants venus de Kinshasa, Goma, Bukavu et Lubumbashi. Les autorités de toutes les provinces issues de l'ancien Katanga y ont aussi pris part. Jean Gandou.
D'entrée des jeux, le recteur de l'université de Lubumbashi a indiqué que son institution a répondu favorablement à la demande de la 22e région militaire et s'est rendue disponible en vue de la mise en commun des apports des uns et des autres pour donner des réponses aux questionnements sur la sécurité et la défense. Au général Eddie Kapend, commandant de la 22e région militaire, de renchérir que sans défense, il n'y a pas de sécurité et sans sécurité, il n'y a pas de développement. Ainsi pour lui,
les Katanga, c'est une province à vocation industrielle qui a comme nature de constituer les fondements de développement de notre pays. Et lorsque nous envisageons le développement sans au préalable réfléchir sur les conditions de sécurité, ce que nous faisons, c'est de la peine perdue.
Pour le professeur Ngoma Binda de l'Université de Kinshasa et l'un des intervenants, ce symposium a été une belle opportunité pour la consolidation de la paix.
Toutes les provinces de l'ancienne Katanga sont des provinces minières convoitées. Nous devons déjà prendre les précautions nécessaires pour que ce qui se passe dans le Nord Kivu et dans le Ituri n'arrive pas jusqu'ici.
Notons que plusieurs recommandations ont été faites par les participants. Toutes vont dans le sens de la recherche de la paix et de la consolidation des relations civilo-militaires pour une collaboration franche pour la sécurité de tous. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Sud Kivu, la Fondation Mindia, en collaboration avec la MONUSCO, organise du 3 au 4 avril un atelier avec les journalistes, les artistes, la société civile et d'autres parties prenantes sur la désinformation, mésinformation et discours de haine. Cela permettra de réduire ou d'endiguer les effets négatifs ou nocifs que ceux-ci engendrent. La Fondation Mindia a ainsi sollicité et obtenu l'accompagnement de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO pour la tenue de cet atelier au Sud Kivu. L'objectif général de ces projets est de mener des campagnes de lutte contre les discours de haine, la désinformation et la mésinformation, notamment ceux liés au processus de désengagement de la MONUSCO au Sud Kivu. Joyce Cage, chanteuse et présidente des Mindia Fondation, au micro de Rachel Kiesembangu.
Nous avons organisé cette activité parce que nous avons constaté que ces phénomènes, ces concepts, ce sont des concepts très très importants et qui touchent négativement notre société, qui engendrent des guerres et même beaucoup de problèmes dans notre société. Nous avons jugé bon d'apporter cet atelier ici à Bukavu pour essayer d'impacter positivement notre société et de diminuer sensiblement ces genres de discours de haine et la désinformation et la mésinformation aussi. À tous ceux qui participent à cet atelier, nous attendons d'abord qu'ils comprennent bien ces concepts, c'est quoi les discours de haine, c'est quoi la désinformation, c'est quoi la mésinformation. Ensuite, nous attendons aussi qu'après cet atelier, qu'ils aillent parler de ces ateliers en dehors dans la société pour éviter ces problèmes que nous avons dans notre société qui engendrent des situations néfastes. Ça engendre même la mort, ça engendre des conflits qui amènent la guerre. Ça ne permet pas le développement de notre société.
Parlons santé à présent. Au Sud Kivu, plus de 230 cas de la maladie des monkeypox avec 3 décès sont actuellement notifiés dans la province. Le plus grand foyer de cette variole des singes, c'est le territoire de Mwenga. Les autorités sanitaires du Sud Kivu appellent la population à observer davantage les mesures d'hygiène. Emmanuel et la Menjoa Kabedi.
Depuis le mois d'octobre 2023 à ces jours, 239 cas de la maladie de monkeypox sont enregistrés au Sud Kivu. La zone de santé de Kamituga dans le territoire de Mwenga compte à elle seule 160 cas faisant 3 décès. La ville de Bukavu enregistre 3 cas de monkeypox dans 2 zones de santé. Docteur Justin Bengeya, en charge des informations sanitaires à la division provinciale de la santé au Sud Kivu, parle des mesures de prévention.
Il y a des cas aujourd'hui dans la ville ici. Donc les gens doivent quand même faire attention, ils doivent renforcer les mesures d'hygiène pour éviter d'être contaminés. Pour limiter la propagation de la maladie, nous devons aller décontaminer le ménage K et les ménages aux alentours des K. Et renforcer la communication dans la communauté, ça c'est très important. Renforcer également la surveillance à base communautaire où nous devons capaciter les relais communautaires sur les mesures qui doivent être prises. Et quand il y a un malade, le demander d'aller rapidement dans une structure de soins avant que la situation est aggravée.
La division provinciale de la santé du Sud qui vous précise que tous les malades de monkeypox bénéficient d'une prise en charge gratuite, cela avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Entre-temps, en province de Maniema, la centrale d'achat et de distribution des médicaments essentiels éprouve des difficultés pour son fonctionnement. Depuis sa création en 2009, cette centrale demeure jusqu'à présent locataire. Le président du conseil d'administration de cette structure précise qu'ils détiennent des parcelles acquises dans la ville de Kindu, mais il manque des moyens suffisants pour construire ses propres entrepôts. Docteur Charles Omesumbu Chako lance un SOS au gouvernement et aux hommes des bonnes volontés volonté à leur assister. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous devons augmenter notre capacité de stockage, c'est-à-dire que nous devons construire nos entrepôts propres. Nous avons des parcelles que nous avons acquises, mais il nous faut maintenant construire les entrepôts. L'autre défi, vous savez, nous avons la lourde responsabilité d'acheminer les médicaments jusque dans les fins fonds de la province du Maniema. Nous devons améliorer notre charroi automobile. Et le troisième défi, c'est que nous devons augmenter notre capital médicament pour arriver à desservir toutes les 18 zones de santé. Actuellement, nous desservons 14 zones de santé, mais nous devons arriver à desservir 18 zones de santé que compte la province du Maniema. D'abord à nous-mêmes, nous avons commencé à épargner quelque chose progressivement pour arriver à faire face aux défis de construction, mais nous ne serons pas y arriver seuls. Nous lançons un cri d'alarme à toutes les personnes éprises de bonne volonté et qui pensent que ils peuvent aider la population du Maniema à bénéficier de médicaments de qualité à un coût abordable, de s'approcher de nous pour qu'ils puissent voir à quel niveau ils peuvent aider.
Actualité internationale.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a averti mercredi les députés de ne pas s'accrocher au pouvoir quelques semaines après que son ancien rival devenu député ait proposé un report des élections prévues pour décembre. Monsieur Salva Kiir a déclaré qu'une prolongation de la période de transition avant les élections priverait les citoyens de la possibilité de choisir leurs dirigeants et a exhorté les parlements à adopter les lois nécessaires pour ouvrir la voie aux élections.
L'invité.
Notre invité, c'est Madame Eliane Munkeni, deuxième vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo et seule femme à occuper un poste dans les présidiums du patronat congolais. Madame Munkeni salue la venue d'une femme dans l'une des plus hautes sphères du pouvoir politique. Elle espère que la présence de Madame Judith Suminwa Tuluka sera une bonne balance pour les opérateurs économiques en ce sens qu'elle sera juge au milieu du village face à trois préoccupations majeures soulevées par la FEC. Eliane Munkeni s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Madame Eliane Munkeni, bonjour. Alors, le président de la République vient de nommer Madame Judith Suminwa Tuluka comme première femme à la primature. Une réaction à ce stade de votre part?
Bon, ben écoute, ma réaction à chaud serait celle de toutes les femmes de la République qui sont heureuses, celles qui la connaissent et celles qui ne la connaissent pas. Toutes sont heureuses. Madame Judith n'est pas arrivée là où elle est arrivée, comme ça, comme un cheveu qui est tombé dans la soupe, parce qu'on constate que les jeunes filles aujourd'hui qui sortent déjà de l'université veulent devenir ministre, veulent devenir conseiller, veulent devenir député, sénateur, tout ce que vous voulez. Alors ça, Madame Judith aujourd'hui, si vous lisez son CV, elle a travaillé comme dans une banque. Comme employée normale. Elle a travaillé au PNUD comme un agent qui s'occupait de problèmes de développement. Elle a travaillé ensuite au ministère de budget. Et enfin, elle est allée comme conseiller du président de la République dans des domaines bien précis, ministre de plan. Et enfin, aujourd'hui, elle est arrivée là. Et donc, vraiment, pour moi, j'aimerais demander aux journalistes que vous mettez l'accent sur ces processus que chacun de nous doit voir, et surtout les femmes.
Alors parlons maintenant du monde des affaires, hein, que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, selon vous, qu'attend la sphère économique privée qui est un partenaire clé du gouvernement avec cette nomination?
Les gens sont convaincus, ou tout le monde est convaincu, que lorsqu'une femme veut faire quelque chose, lorsque cette femme-là est compétente, je dis bien, elle va jusqu'au bout. Et donc pour nous, la présence de Madame Judith, pour nous, ça sera une bonne balance. C'est quelqu'un, nous attendons d'elle qu'elle soit juge au milieu du village. Que ce soit le problème économique des hommes et des femmes. Et nous attendons son installation pour évidemment aller la voir, pour la féliciter, mais avec nos dossiers pour le même problème que nous avons eu à soulever des années durant.
C'est justement quel problème, Madame Munkeni?
Le problème actuellement dans le monde économique, c'est que nous tuons la multiplicité des taxes. Ça, c'est un problème en tant que chef de gouvernement, elle doit gérer. Parce que au niveau de l'intérieur, les gouverneurs, tous ils disent que voilà, eux, ils créent des taxes parce que le gouvernement central ne fait pas la rétrocession. Et donc, ils ne savent pas vivre. Le deuxième problème, le problème des ATD, avis à tiers détenteurs.
Ça veut dire quoi exactement?
C'est un avis à tiers détenteurs, ça signifie que lorsque vous devez de l'argent au fisc, les fisc voient que vous travaillez avec M. X ou Y, je vous fais simple, qui est votre client ou fournisseur, et que vous ne pouvez pas payer, ils vont bloquer les comptes de quelqu'un d'autre, de cette personne, les tiers détenteurs, pour vous obliger à payer. Et donc là, les opérateurs économiques souffrent de cette histoire-là, même les banques. Et là, je recommanderais que le prochain ministre des Finances qui sera là, il doit organiser le contrôle. S'il organise convenablement le contrôle, il forme très bien les agents du fisc. À ce moment-là, tout le monde travaillera avec un minimum de confiance. Mais s'il n'y a pas cette confiance-là, c'est nous qui souffrons. Le dernier point, c'est le problème des aviseurs. Encore une fois, aviseur veut dire quoi? Madame Munkeni a présenté sa comptabilité. Et madame journaliste que vous êtes, vous travaillez aux agents du fisc, vous allez dire aux impôts que non, voilà, j'ai des éléments qui prouvent que la comptabilité de madame Munkeni n'est pas correcte, donc allez les contrôler. Ils vont émettre un avis de contrôle, ils viennent, ils contrôlent, et lorsqu'ils vont contrôler, on va donner une prime à cette personne-là. Madame la journaliste, dans un pays avec l'environnement de la RDC où il y a tout le monde veut gagner l'argent facile, mais ce système détruit l'économie. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais ça détruit l'économie.
Madame Munkeni, je vous remercie.
Merci à vous, madame.
Eliane Munkeni s'entretenait avec Cynthia Bachizina Bizana. Et c'est par ici que je mets un point final à cette session de vos nouvelles sur Radio Capi, mise en onde par Alain Goy et supervisée par Pelekipe Lamondo et Élisée Tukota Chivueta. Au micro, Patience Ngalulambombo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Radio Capi.